Mais d'abord, cette histoire qui avait déjà d'abord été présentée dans l'émission de Paul Arcand, puisqu'il faut se lever, vendredi passé. Et là, le journaliste de La Presse, Vincent Larouche, l'a amené plus loin. Vincent Larouche, bonjour.
Bonjour.
D'abord, rappelez-nous les faits, Vincent.
Bon, eh bien, on en avait parlé effectivement vendredi dernier à l'émission de Paul Arcand. Une adolescente de 15 ans qui avait été soumise à un mariage forcé. Ça se passe dans la région de Victoriaville. C'est un imam qui vraiment a organisé l'affaire, signé le contrat de mariage, évidemment avec l'appui et même à l'initiative de la famille de cette adolescente-là. Une adolescente qui fréquente l'école secondaire, mais qui, en dehors de l'école, est forcée de passer tout son temps avec cet homme dans la vingtaine à qui on veut la marier et qui est contrôlé, qui est forcé de porter le hijab, qui est forcé de ne pas fréquenter les amis de son choix, qui ne peut pas saluer les gens sur la rue des étrangers, parler à des hommes. Un fiancé extrêmement contrôlant. Et ce qui était particulier dans cette histoire-là, comme ça a été souligné à l'émission de M. Arcand, c'est que ça s'est retrouvé devant le tribunal de la jeunesse et la jeune fille elle-même, de sa propre initiative, a dit « Placez-moi en famille d'accueil, je suis pas bien dans ma famille, mon développement est menacé, ma sécurité est menacée, j'ai peur, on veut me forcer à épouser cet homme que je n'aime pas du tout et qui me maltraite. » Et le tribunal a dit, s'est rendu à ses arguments et avec l'aide de la Direction de la protection de la jeunesse, a placé l'adolescente dans une famille d'accueil jusqu'à sa majorité pour qu'elle soit libre vraiment de faire sa vie comme elle le veut.
Wow! Et là, racontez-nous le moment où elle sort de chez elle parce qu'elle craint pour sa sécurité et elle trouve refuge chez une autre famille musulmane. C'est incroyable comme histoire.
Oui, et puis c'est important de le souligner parce que, évidemment, que toutes les gens dans sa communauté et les autres personnes qu'elle fréquente dans sa région ne partagent pas du tout nécessairement ce genre de pratiques, sont pas d'accord avec le fait qu'on force des adolescentes comme ça, surtout à son âge, mais en général à être mariée de force à quelqu'un qu'elle n'aime pas. Donc elle, un beau matin en avril dernier, s'enfuit de chez elle, s'enfuit de son fiancé, de sa famille, de son père, part à courir, même pas de souliers aux pieds. C'est vraiment la fuite en catastrophe. Et j'ai rencontré en fin de semaine à Victoriaville cette famille, cette autre famille de réfugiés qui était chez eux un beau samedi après-midi comme ça. La porte s'ouvre dans leur petit appartement où ils sont entassés les uns sur les autres. La porte s'ouvre et cette jeune fille, à bout de souffle complètement, effrayée, terrorisée, qui entre sans cogner, sans prévenir et qui dit « J'ai besoin de protection, j'ai besoin d'être cachée. » Ma famille veut elle disait « Ma famille veut me frapper, ma famille est après moi. » Et ils ont même pas eu le temps de comprendre exactement pourquoi elle avait fait irruption chez eux, que la porte s'ouvre encore et il y a 6 personnes qui arrivent à la suite de la jeune fille, à sa poursuite. Le fiancé, la mère de la jeune fille, ses frères et des amis du fiancé qui sont là pour porter main forte et la ramener de force dans cette union dont elle ne veut rien savoir. Alors, la jeune fille s'est enfermée dans une chambre à coucher chez les gens chez qui elle essayait de trouver refuge. Son fiancé a défoncé la porte. Il n'est pas chez lui. Il n'a pas demandé la permission pour entrer. Défonce la porte et elle, avec l'énergie du désespoir, ça, c'est la famille qui l'a recueillie, qui nous raconte tout ça. Elle avait le dos à côté à la porte, les jambes qui poussaient sur le lit devant elle et de toutes ses forces, elle empêchait la porte de s'ouvrir. Et là, vraiment, la famille qui l'a recueillie, on doit protéger leur identité parce que vu que la DPJ est là-dedans, il ne faut pas donner d'indice qui permet d'identifier la jeune fille en fuite. Mais la famille qui l'a recueillie, ils ont fait écran et la bagarre générale qui a éclaté, ils ont protégé la jeune fille parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait des gens menaçants, agressifs, qui étaient à ses trousses. Et ça a viré en bagarre générale. Il y a d'autres personnes de la communauté qui s'en sont mêlées. J'ai parlé avec la Sûreté du Québec. Quand les policiers sont arrivés sur place, c'était une bagarre entre une vingtaine de personnes
qui étaient
en cours et ça s'était déplacé à l'extérieur du bloc appartement. Et vraiment, il y a plusieurs personnes qui faisaient écran, bouclier, qui protégeaient cette jeune fille de sa famille, de son fiancé aussi, qui voulait la ramener de force. Et Bernard, c'est une histoire, je pense, on parle souvent Dieu sait qu'il y en a des exemples où le système a failli, et puis
Ouais.
des failles dans notre système, mais c'est une histoire ici où le système a bien fonctionné. Parce que les policiers arrivés sur place, beaucoup de difficultés à démêler qui est qui dans tout ça, puis beaucoup de gens parlaient pas ni français ni anglais, ils avaient de la misère à comprendre l'histoire, mais ils ont dit, cet enfant-là semble, sa
Menacé.
sécurité semble compromise, elle
Oui.
semble menacée. On appelle d'urgence des intervenants de la DPJ et eux, ils arrivent vraiment rapidement, ils constatent la situation et ils disent, ça y est, on te sort d'ici, tu viens avec nous. Et on
Sous
évaluera
protection
la situation
policière, là, Vincent, là.
sous protection policière avec une escorte policière pour les intervenants de la DPJ qui se sont assurés que personne ne les suivait pour qu'on ne puisse pas découvrir dans quelle famille d'accueil on l'emmenait. Et ensuite, tout ça se transporte devant le tribunal de la jeunesse où les parents sont représentés par avocat, où la jeune fille elle-même, personnellement, est représentée par avocat et la DPJ est représentée elle aussi de son côté. Tout le monde fait valoir ses arguments. Les parents essaient de dire non, non, c'est pas si pire chez nous, c'est un mariage qui va être bon pour elle, etc. La jeune fille expose ses arguments. Pourquoi elle veut pas être soumise à ça? Pourquoi elle est opprimée, contrôlée, maltraitée? La DPJ expose aussi ce qu'elle a constaté et le juge, à la fin, dit parfait, eh bien, placement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité pour qu'elle puisse être libre de ses choix. Vous ne pouvez pas lui imposer un traitement comme ça. Alors vraiment, chaque intervenant dans ça, à commencer par la famille ce jour-là qui a donné le temps à la police d'arriver et à la DPJ, puis qui a vraiment protégé physiquement cette jeune fille-là, mais tout le monde a fait sa part et le système a vraiment sauvé cette adolescente-là.
Je veux citer un extrait du jugement de la Cour. Donc, et je le nomme, là, le juge de la Cour du Québec, Bruno Langelier, qui, à mon avis, comme tu le soulignes si bien, fait bien son travail comme le reste du système. Il a dit ceci en parlant de la victime. Elle décrit son fiancé comme étant très contrôlant. Il décide ce qu'elle porte, du choix de ses amis. Il refuse qu'elle se maquille. Il exige qu'elle soit toujours avec lui lorsqu'elle n'est pas à l'école. Il décide de ses sorties. Il l'empêche de parler à des gens. L'oblige aussi à porter le hijab. Malgré qu'elle lui a dit à plusieurs reprises qu'elle ne l'aime pas et ne pas vouloir se marier, le fiancé lui répond qu'elle est à lui, qu'elle n'est pas le choix.
Oui.
Qu'elle n'a pas le choix.
Oui, c'est incroyable.
Et là, laissez-moi vous poser la question, Vincent, comment peut-on s'assurer de la sécurité de cette jeune fille de 15 ans, là? Parce que là, le jugement a été rendu. Elle est en famille d'accueil. On peut penser que le fiancé ne va pas renoncer aussi facilement. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de la sécurité de cette jeune fille-là, là?
Mais c'est une des raisons, d'ailleurs, pourquoi son identité est protégée et puis pourquoi les policiers ont mis des mesures en place pour s'assurer que les intervenants de la DPJ n'étaient pas suivis.
Elle s'est même
Quand on
pas
l'a
présentée, il
déplacée,
faut dire, hein, elle s'est même pas présentée au
oui,
tribunal pour l'audition parce qu'elle craignait des représailles.
elle était terrorisée. Et là, maintenant, elle est suivie de très près, faut dire, par la DPJ et il y a des mesures en place pour qu'elle ne soit pas retrouvée. On peut deviner, même si c'est pas précisé parce qu'aucun indice est donné sur l'endroit où elle se trouve maintenant, mais on peut très bien présumer qu'ils l'ont placée dans une autre région ou dans une autre ville à tout le moins pour s'assurer qu'elle soit pas à proximité de toute menace. Et maintenant, jusqu'à l'âge de ses 18 ans, elle est dans cette famille-là et suivie par les intervenants de la DPJ. Puis ensuite, ce sera à elle de décider aussi la suite des choses. Mais il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place pour qu'elle ne soit pas retracée, retrouvée
Bon.
par les gens qui étaient après elle. Et je dois dire que j'ai parlé avec l'avocate des parents. On n'a pas parlé avec les parents, évidemment, mais l'avocate des parents me dit qu'ils ont renoncé à contester le verdict et puis ils ont comme compris qu'ils avaient perdu la partie et que maintenant, elle est partie puis ils n'ont plus de recours pour décider à sa place.
Bon, l'autre chose dans le jugement qui est très clair, et je cite, il apparaît clair que l'imam agit en contravention de la loi. Quelle sera la suite?
Oui, ça, c'est une question que moi aussi, j'ai posée à plusieurs personnes depuis qu'on a commencé à travailler sur cette histoire-là. J'ai téléphoné dans les deux mosquées de Victoriaville. À ces deux endroits-là, on était clair que c'était pas chez eux que l'imam travaillait ou avait organisé ça. On pensait qu'il s'agissait d'un imam de l'extérieur de la ville et on ignorait son identité. Dans le jugement, on n'a pas son identité non plus. On a fait des démarches pour essayer de le retracer. La DPJ nous dit qu'ils peuvent pas donner plus de détails, mais que s'ils ont des informations comme quoi d'autres adolescentes auraient été victimes de cet imam-là, qu'eux, ils prendraient des mesures aussi, mais ils peuvent pas nous donner plus de détails.
Est-ce qu'il y a une enquête en bonne et due forme pour essayer de le retrouver? Parce qu'on peut penser que s'il le fait avec cette jeune fille-là, il pourrait le faire ou l'avoir fait avec d'autres jeunes filles.
On peut le penser, oui, puis la DPJ disent qu'ils peuvent pas nous donner de détails. Du côté de la police, c'était vraiment une intervention pour une bagarre, et puis maintenant on a transféré le dossier à la DPJ. Nous, c'est certain qu'on essaye aussi, on a fait des démarches de notre côté aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi aujourd'hui et qui savent si cette personne-là a fait la même chose avec d'autres familles. Pour l'instant, c'est le seul cas qui est ressorti là.
Donc, votre enquête continue pour savoir s'il n'y a pas eu d'autres mariages forcés d'adolescentes au Québec en lien avec cet imam-là, donc qui l'avait autorisé en bonne et due forme. Ben, écoutez, Vincent Larouche, merci d'avoir pris le relais donc de cette histoire-là qui est troublante. Et je pense que c'est important de dire et de redire, oui, il s'agit d'une famille musulmane, mais c'est une autre famille musulmane qui a sauvé cette jeune fille-là. Je pense que c'est important de le souligner, Vincent Larouche.
Tout à fait.
Merci,
oui, tout à
merci
fait.
Beaucoup pour ce reportage.
Merci, au revoir.
On va s'arrêter au retour. On va parler avec Philippe Bonneville de cet enfer qui est en train de devenir la ligne de train de Deux-Montagnes à cause des travaux du REM.